Pour parler du savoir réparer, des guides de réparation et de bras de fer juridiques avec les fabricants, il fallait parler du destin atypique de iFixit et de ses combats homériques avec Apple, Samsung et même avec l'église de Scientology, mais aussi de ses réussites qui nous profitent à nous tous. Nous recevons par satellite Sandra Aubois, France Market Development, Social Media Manager Europe chez iFixit, rédactrice depuis 8 ans sur des fiches réparation, et adopte vice, panne, deux chats et un lapin.
CPU carré petit utile.
Je tiens à rappeler qu'en temps normal, nous refusons tout directeur de la communication ou agence de relations publiques en tant qu'interviewé, mais il se trouve que Sandra Aubois, ayant été impliquée dans la traduction et l'écriture de guide de réparation, nous avons jugé plus qu'opportun de l'avoir à notre micro Oui, donc, bonjour l'ARCOM. Avant de commencer, je sais que cet exercice n'est pas simple, mais ce sont les règles de l'autorité de contrôle de l'audiovisuel. Pouvez-vous me citer deux concurrents équivalents et que vous estimez ?
Oui, bonjour. En concurrent, pour avoir en France SESAV et Bricophone, par exemple.
Très bien.
Qui vendent aussi des pièces détachées de smartphones.
Très bien. Sandra Aubois, quand et comment vous vous êtes personnellement intéressée à la réparation électronique ?
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu mes parents bricoler à la maison, réparer tout un tas de trucs qui en avaient besoin. Et ayant eu un grand frère fan de jeux vidéo, j'ai toujours été un peu geek, donc j'ai toujours été un peu dans le milieu. Donc, c'était un peu prédestiné.
Et quel a été le premier appareil dont vous êtes fier d'avoir pu prolonger la vie ?
Alors, je pense que le premier vrai appareil que j'ai réparé, ça doit être mon iPhone 4, à l'époque, il y a une dizaine d'années,
et dont
la batterie était fatiguée et que j'ai changé parce que j'aimais beaucoup l'iPhone et que je voulais le garder. Donc, et le plus drôle, c'est qu'il fonctionne encore, je l'ai toujours. Enfin, j'ai changé de téléphone entre-temps, mais il est toujours là et il fonctionne toujours.
Et malheureusement, il n'y a plus de mise à jour dessus.
Non.
On va parler de ce site, ifixit.com. Et surtout, on va revenir sur sa genèse. Comment a-t-il été créé ?
Alors, cette année, on fête nos 20 ans. Donc, ça fait déjà 20 ans qu'iFixit a été créé aux États-Unis par Kyle et Luke. Et ça a été créé parce qu'à l'époque, ils étaient étudiants et leur e-book à l'époque est tombé en panne.
Attendez, déjà Apple ?
Ouais, déjà Apple. Ça a commencé par Apple. Après, ça a évolué, mais ça a commencé avec Apple. Et l'e-book était tombé en panne et en ayant un petit budget, ils ont voulu le réparer et ils se sont rendus compte que c'était quand même assez compliqué parce qu'il n'y avait pas de pièces détachées, qu'il n'y avait aucune instruction pour expliquer comment faire. Donc ils ont réussi à le réparer en bidouillant un peu à l'aveugle et c'est là que l'idée a germé dans leur tête en disant faut faire quelque chose pour qu'on puisse réparer les appareils pour prolonger leur durée de vie.
Mmh.
Et c'est là qu'est née l'idée d'iFixit.
Et historiquement, donc le site a été lancé il y a une vingtaine d'années. La structure commerciale a été créée à peu près à quelle époque ?
La partie vente, ça s'est fait dans la foulée.
Mmh.
Ça s'est fait dans la foulée parce que ils ont récupéré des pièces détachées fonctionnelles sur des ordinateurs qui étaient soit cassés ou partiellement défaillants. Et ils ont récupéré ces pièces pour pouvoir les revendre. Et en même temps rédiger des tutos pour expliquer comment réparer telle ou telle pièce. Donc ça s'est fait dans la foulée.
Quelle est la taille actuelle de l'équipe ?
Alors, là, deux sièges sociaux, il y en a un basé aux États-Unis, donc l'historique qui est à San Luis Obispo en Californie. Et il y en a un en Europe depuis 10 ans à Stuttgart.
Mmh.
Et la taille globale de l'équipe doit être à peu près 200 personnes.
Ah oui, quand même !
Ouais, mais sachant qu'on est quand même pas mal en télétravail, donc tout le monde n'est pas basé à Stuttgart ou à San Luis Obispo, on est quand même, il y a pas mal de gens partout dans le monde.
Mmh. Quelle est la taille ? Est-ce qu'on a une estimation de sa communauté, de ses contributeurs qui en sont extérieurs ?
Ouais, c'est en constante augmentation, mais là on a à peu près 2,5 millions de membres autour du monde, donc qui participent activement à iFixit.
2,5 millions. Là, on va parler commercial. J'en profite pour une fois. On prend une personne qui est du côté commercial, donc qui parle en chiffre d'audience et tout le reste. Mais l'audience actuelle des sites actuels, c'est quoi ? Ça se compte en dizaines, en centaines de millions ?
Non, pas forcément. Après, les chiffres sont en constante augmentation. Par mois, on a un trafic de, on a plusieurs millions de personnes qui consultent les tutos. Après, voilà, y a les tutos sont complètement gratuits. Et on est à 3, 4, 5 millions minimum par mois de personnes qui consultent des tutos et c'est en constante augmentation. Donc mes chiffres sont peut-être déjà un peu datés. Donc ça évolue tellement vite, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe.
Combien de fiches de réparation sont à ce jour consultables sur le site justement ?
Alors par fiche de réparation, vous entendez les guides,
ouais.
les tutos, ouais, tutos. Alors les tutos, on tourne à peu près autour de 100 000, je crois. On doit frôler les 100 000 dispo sur le site, dispo en 12 langues, traduit en 12 langues. Donc ouais, on est plutôt fiers de regrouper la plus grosse base de données actuelle sur le net.
Et du coup, ben justement, on parlait de traduction puisque vous étiez un petit peu là-dedans. Donc, il y a 12 langues, mais ça veut dire que vous avez une équipe de traducteurs qui est interne ou c'est la communauté qui traduit ?
Les deux. On a une équipe de traduction en interne. Donc, chacun a une langue définie et on demande aussi à la communauté de participer, que chacun puisse traduire dans sa langue. Chacun peut traduire le tuto, les wikis dans sa langue. Donc, il y a 12 langues dispo. Nous, on modère bien sûr le contenu traduit pour que ça reste dans la charte iFixit. Mais c'est pour ça, c'est grâce à ça qu'on a autant de tutos, de guides de dispo.
Et comment on arrive en fait, quand on fait une traduction d'une fiche, puisque vous avez été dans cette partie-là, ça signifie forcément avoir un vocabulaire ultra spécifique, c'est quand même extrêmement précis. Il y a des mots sur lesquels des fois on est là, on se dit mais comment on le traduit ?
Parfois, ça arrive. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les connaissances techniques très poussées, mais c'est pas grave. Après, c'est sûr qu'il faut avoir un certain niveau dans sa langue pour que ça soit compréhensible par tous, pour vulgariser les infos. Après, c'est aussi pour ça quoi. Nous, on modère derrière. Si on voit qu'un mot a été traduit de façon pas correcte ou c'est pas exactement le bon terme, on a une équipe pour le corriger s'il le faut. C'est pas grave en soi si l'essentiel de la trame est bien traduite. S'il y a un mot ou deux à revoir, c'est pas grand chose quoi.
Alors on parlait d'audience justement. C'est une audience qui est plutôt uniforme à travers le monde ou qui est très localisée sur certains continents voire certains pays.
On est quand même pas mal mondial. C'est vrai qu'on est forcément plus basé en Europe et aux États-Unis, mais on a quand même une partie au Japon, dans les pays asiatiques, aussi en Afrique, en Australie. On est assez mondial. Pour le coup, après, voilà, forcément, nos deux sièges sociaux sont basés aux États-Unis et l'Europe, donc ça pèse pour l'envoi des commandes, mais la communauté est assez globale.
Et du coup, la communauté en elle-même, c'est beaucoup de particuliers ou bien on trouve aussi des shops de réparation, des professionnels aguerris, ce genre de choses ?
Il y a les deux. Il y a beaucoup de particuliers qui, des fois, se trouvent une passion. Ils se lancent dans la réparation de façon un peu plus pro, parfois en plus de leur travail dans aux heures perdues. Et il y a des pros qui s'investissent dedans et qui créent des tutos en fonction des appareils qu'ils ont réparés. Donc c'est assez varié, mais on a, je pense quand même peut-être plus de particuliers. Mais voilà. Ouais.
Je comprends. Alors on parlait du modèle de iFixit qui est donc d'aider à la réparation. Est-ce qu'il y a des marques qui ont été rétives à voir comment démonter leurs précieux? Ou d'autres qui ont collaboré vraiment de bon cœur?
À vrai dire, on ne demande pas l'autorisation des marques.
Donc, alors, est-ce qu'on peut dire lesquelles sont pénibles, lesquelles ont sorti la meute d'avocats et celles qui ont été super pour cela?
On n'a jamais eu de problème avec une marque à ce sujet. On n'a jamais été au tribunal pour ce genre de sujet. Donc, on n'a jamais été jusque-là auprès d'une marque. Après, ouais, non, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Certains nous ignorent, voilà, parce qu'ils préfèrent juste passer outre, parce qu'en somme, ils ont rien à nous reprocher. On a le droit de démonter leur appareil et dire notre avis. Et certains sont plus coopératifs et parfois ça mène même à partenariat avec eux. Mais voilà, après, on reste vraiment très indépendant là-dessus et on ne demande pas l'avis aux marques pour le coup, que ça leur plaise ou pas, c'est pas notre idée. En revanche, on est toujours là pour accompagner les marques si elles veulent faire un pas vers la réparabilité. Donc on est là pour les accompagner si ils se disent bon ok peut-être que là faut qu'on se lance un peu plus dans ce sujet-là et on est là, on n'est pas là pour les juger, on les accompagne dans ce cas-là.
Et dans ce cas-là, c'est une prestation qui est payée, c'est des accords sur la revente de pièces détachées. Comment ça se monnaie entre deux entités commerciales?
Il y a plusieurs possibilités, ça dépend ce que les marques veulent en fait. Ça peut être juste de la consultation sur la conception d'un appareil, on peut leur donner notre avis sur comment on pourrait le rendre plus réparable, leur donner quelques conseils sur la conception. Après, ça peut être un accord sur la revente de pièces détachées, sur la création de tutos dédiés. Ça dépend des marques en fait.
Au moment où on enregistre, puisque nous sommes le 14 septembre, Apple a fait une annonce et a dit « Bon, alors finalement, apparemment, notre super innovation, le Lightning, ben, il y en a qui aiment pas et on va devoir passer à l'USB-C. » Qu'est-ce que vous pensez d'Apple, plus exactement sur leur politique sur les câbles d'iPhone qui a été passée et donc qui, tout contre, sont obligés d'abandonner leur confortable royalty sur la prise Lightning et d'un autre côté parle de faire un certificat made for iPhone qui permet par exemple d'interdire la charge rapide et les hautes vitesses aux câbles non Apple.
Alors le passage à l'USB-C, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire c'est enfin pour l'iPhone.
Mais alléluia, après... le Jesus Phone. Alléluia.
C'est ça. Après, il faut quand même dire qu'ils avaient déjà franchi le pas depuis pas mal de temps sur les MacBooks et les iPads. Donc, c'était juste la continuité logique pour l'iPhone. Ils ont résisté jusqu'au bout, mais voilà, ils ont été obligés de se conformer finalement. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, pour ce qui est des câbles MFI, c'est pas nouveau non plus. C'est depuis toujours avec le Lightning, ils avaient déjà mis ça en place. Donc ça, c'est pas nouveau. À l'heure actuelle, on n'a pas forcément d'infos sur le fait qu'ils puissent bloquer la charge rapide sur les câbles non officiels. Donc là, pour le coup, je pourrais pas me prononcer. Vu qu'on est que le 14 secteur, on n'a pas encore les iPhones en main. J'ai pas l'info. Après, faut juste garder à l'esprit que de toute façon, tous les chargeurs rapides ne se valent pas. Donc, il y en a certains qui sont plus efficaces que d'autres. Donc, dans tous les cas, les résultats peuvent varier. Donc, Apple peut jouer là-dessus et je sais pas s'ils se lanceraient dans cette voie-là pour bloquer la charge rapide avec les, je sais pas. Pour le coup, on peut pas savoir d'avance. Pour les MacBooks et les iPads, c'est pas le cas. Pour les iPhones, on sait pas, mais déjà, a priori, il semblerait que les nouveaux iPhone 15 soient fournis avec des chargeurs USB-C simples. Pour bénéficier de la charge ultra rapide, faudra acheter un chargeur à part, de ce que j'ai compris. Donc, ça sera pas forcément inclus. Voilà, à voir si ça se confirme à la sortie des iPhones, mais a priori, ça serait déjà en plus dès le début.
Je pense que Thierry Breton, le commissaire européen qui justement est en charge de regarder ça, il a dit lui-même qu'il serait très attentif. Donc, si eux-mêmes ils fournissent la IBAF qui va leur arriver dessus, wow, intéressant.
c'est à voir. Là pour le coup, on les a pas encore en main, donc c'est à voir, mais c'est possible que ce soit le cas.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Sandra Aubois, Social Media Manager Europe chez iFixit, où l'on parle forcément de réparabilité. Dites-moi, là j'hésite, je vais peut-être acheter un truc neuf. Est-ce que quand c'est réparable, cela veut dire que c'est plus cher à l'achat en neuf?
Non. Il y a aucune raison que ça soit plus cher parce que c'est réparable. On a des exemples avec les marques comme Fairphone ou Nokia, et leurs derniers G22 ou G42 qui sont tout à fait abordables et ils sont plus réparables. En fait, le principe, il faut simplement penser réparable dès les premières phases de conception de l'appareil pour qu'il le soit. C'est ça le secret. C'est juste une autre vision du design à aborder dès le début, mais il y a aucune raison que le résultat soit plus cher à l'achat.
D'accord. Et justement, puisque vous avez abordé le nom de cette marque, pensez-vous du smartphone Fairphone ou du laptop Framework, deux marques qui promettent des pièces détachées achetables et directement chez eux? Est-ce que pour vous, c'est une excellente avancée ou c'est pénible, on aimerait bien quand même devenir un revendeur un petit peu exclusif?
Alors, nous, on soutient ces marques depuis le début. Elles font partie des plus avancées dans le domaine des appareils réparables, donc on les soutient à fond. et on espère que d'autres marques vont s'engager dans cette voie. Après, nous, notre but, on se bat, on a des équipes qui se battent pour que les pièces soient accessibles par tous les moyens. Donc après, si elles sont dispo directement par le constructeur, très bien. Après, ça nous empêchera pas forcément de les avoir aussi sur notre site. C'est le but, c'est de permettre aux gens de les acheter.
Forcément.
Et d'ailleurs, on a testé récemment l'upgrade du framework 13 et avec les nouvelles pièces et c'est plutôt prometteur. Donc on soutient ces marques. Nous, on est content que ça bouge.
Donc framework, c'est un modèle d'ordinateur portable, donc 13 pour 13 pouces. Et si je me trompe, ils sont américains.
Je crois, ouais. Mais après, ils sont basés en Europe aussi.
Et c'est sous Linux, voilà. J'ai oublié de préciser, mais on peut mettre Windows pour ceux qui préfèrent avoir un environnement qu'ils connaissent. L'indice de réparabilité, on en a beaucoup parlé, on l'a imposé en France, mais le calcul est quand même assez étrange quand j'ai découvert comment c'était fait. C'est basé à 50% sur des critères du fabricant, à sa discrétion, et c'est lui qui attribue la valeur. Comment vous le voyez finalement ? C'est un très bon premier pas ou c'est à nos actes manqués ?
C'est un très bon premier pas. D'ailleurs, on a une équipe iFixit qui a participé au débat, aux premières discussions du gouvernement français avant la publication de l'indice de réparabilité. Donc, on a fait partie des tables rondes où on a donné notre avis. On a pu apporter notre petite pierre à l'édifice à l'époque. Et même si l'indice n'est pas parfait, parce que comme vous dites, la note finale, c'est le fabricant qui la donne, ça reste quand même un très bon pas et on voit que ça fait bouger les choses puisque la France est le premier pays à avoir engagé une loi dans ce sens et l'Europe est en train de suivre. Donc ça a vraiment posé la base pour la suite. Et voilà, de toute façon, l'indice de réparabilité va évoluer vers l'indice de durabilité. Et l'indice de réparabilité ne sera qu'une partie de l'indice de durabilité. Ça va évoluer là d'ici les prochaines années.
Les fabricants sont désormais supposés indiquer aux revendeurs la durée de disponibilité de pièces détachées après l'arrêt de commercialisation d'un modèle. Je sais d'autant plus que j'ai travaillé justement chez un grossiste d'électroménager et on les voyait dans les informations des fiches pièces détachées disponibles 5 ans après la fin de la vente de l'appareil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça se vérifie vraiment ? Ou c'était déjà dans les cas plus ou moins vrai ? Ou finalement, non, c'était juste une mesure d'affichage.
Pour ce qui est tout le domaine smartphone, tablette, ordinateur, c'était pas toujours vrai. Donc là, on attend de voir. On n'a pas encore suffisamment de recul par rapport à ces lois pour voir si ça va être vraiment appliqué. On l'espère, mais en tout cas, c'est une bonne mesure. On a envie de dire enfin. Ça nous paraît tellement normal que c'est étrange que ça n'a pas été mis vraiment en place plus tôt. Il y a quand même un sujet qu'on surveille parce que la disponibilité des pièces, c'est un sujet, mais voir aussi le prix qui sera fait par les fabricants pour les pièces au bout d'un certain temps pour que ça soit pas des prix trop démesurés par rapport à l'âge de l'appareil ou au prix global de l'appareil. C'est aussi un des critères qu'il faut avoir en tête. C'est la disponibilité et aussi le prix.
Oui, c'est extrêmement cher quand même les pièces détachées et en général d'ailleurs puisque c'est l'espace dans des entrepôts qui louent. Donc plus ça avance, plus ça devient cher et ça monte plus vite que le marché de l'immobilier parisien, c'est dire. Nous enregistrons le 14 septembre 2023. Il se trouve que hier, la Californie a passé une législation qui oblige les fabricants désormais à maintenir à disponibilité les pièces détachées 7 années après la fin de commercialisation de l'appareil. Donc, on va voir ce qu'il en est, si ça fait goutte d'eau, si ça va faire tache d'huile, pardon. Non, là, on parle de pollution. Enfin, bref, si ça se propage dans le reste du monde. Mais en tout cas, ce sera vraiment intéressant à suivre. Le site iFixit est extrêmement réputé pour la qualité de ses guides de réparation. Des très longs articles how-to en pas à pas avec de nombreuses photos légendées. Vous avez dit que vous en avez plusieurs dizaines de milliers de guides de réparation, pas forcément d'appareils. Qu'est-ce qui motive qu'un appareil y a droit et pas un autre ?
En vrai, il n'y a pas vraiment de règles. On n'a pas forcément de règles. Après, c'est sûr qu'on va privilégier les appareils les plus populaires car on sait qu'il y aura une demande dessus par rapport aux utilisateurs. Donc logiquement, on va s'attaquer aux appareils les plus vendus. Après, vu qu'on est sur un principe de communauté et de participatif, tout le monde peut créer son tuto. Tout le monde peut créer le tuto, partager ses connaissances sur un appareil qui s'est réparé et rédiger le tuto, prendre des photos. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de règles. Là, par exemple, on a cet été même démonté une machine à glace de McDo.
Oui. Je comptais en faire la chronique justement parce que l'histoire est absolument fabuleuse. Derrière cet appareil qui a été mal engineeré, que tous les McDo du monde doivent acheter, et qu'à tel point qu'il y a carrément des sites qui existent pour indiquer quel restaurant McDo peut encore servir des sundaes. C'est stupéfiant de malbouffe. Et du coup, justement, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à payer pour que vous étudiez un appareil pour essayer de le réparer? Parce que là, c'est un exemple flagrant quand même de toute une industrie qui est bloquée pour une erreur de fabrication, quoi.
Comment ça, que quelqu'un nous paye pour qu'on démonte l'appareil?
Ouais, pour rétro-engineer, pour essayer de comprendre comment on peut réparer tel truc.
Des fois, on a des marques qui nous contactent pour essayer de comprendre là où ils peuvent améliorer la réparabilité. McDo nous a pas payé pour faire ce démontage, si c'est ce que vous entendez ou quoi. On n'a pas de ce genre de choses, on fait pas. Mmh. On l'a fait de nous-mêmes parce que c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi c'est toujours en panne.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile de Radio FMR, et nous sommes avec Sandra Aubois, Social Media Manager Europe chez iFixit, où nous parlons de réparabilité des appareils, des gizmos, des télé grand écran et des petites montres que l'on a dans la poche. Je suppose qu'acheter des appareils pour les démonter, des fois les mettre carrément en panne, sans possibilité de faire jouer la garantie, il doit avoir quand même un sacré budget quand même pour la boîte, pour faire ça.
Ça fait partie du jeu. Après, pour ce qui est du budget, c'est pas trop mon domaine, donc je pourrais pas vous dire, mais ça fait partie du jeu. On a aussi des dons, on a aussi des membres de famille qui nous prêtent des appareils, qui nous demandent de réparer certains appareils. On en profite pour faire des tutos. Voilà, on essaie de récupérer aussi des appareils comme on peut quand on a l'opportunité.
Ce qui m'a impressionné d'ailleurs sur iFixit, c'est que vous avez eu un partenariat au bout d'un moment avec un fabricant d'appareils à rayon X.
Ouais.
Pour radiographier carrément les ordinateurs, les téléphones avant de les ouvrir. Vous avez une idée de comment c'est venu et tout ça, ou ça amène un plus?
Alors, comment c'est venu, je sais pas. Du coup, je vais pas vous mentir, j'étais pas dans la discussion, donc je pourrais pas vous dire exactement. Ça amène un plus, ça, c'est surtout pour, c'est fun, quoi. Et voilà, ça permet d'avoir une idée avant de démonter de comment c'est fait à l'intérieur. Après, j'ai pas plus d'infos là-dessus.
Mais j'invite sincèrement les audilecteurs de CPU qui actuellement nous écoutent à aller voir. Ces images sont assez impressionnantes et vraiment intéressantes. Est-ce que des fabricants vous envoient gratuitement leurs nouveautés pour les démonter, des fois avant même la présentation officielle?
Ça peut arriver, surtout avec les partenaires, avec les partenariats, mais après... Ça dépend des fois. Par exemple, les iPhones, on va pas forcément les recevoir d'Apple de leur propre chef. Mais après, on est toujours ouvert à toutes les propositions. Donc, si des marques souhaitent nous en envoyer, c'est toujours avec plaisir.
Ce serait quand même génial parce que tout le monde disait que l'USB serait la dernière killer feature de l'iPhone, qu'il n'y avait plus rien. Suffit de dire, allez, la killer feature, c'est qu'il y a des guides complets de réparation maintenant. Allez, hop. Ce serait tellement amusant. Alors, je me suis intéressé en fait sur les produits que vous commercialisez en propre, puisque vous avez des gammes de tournevis, des gammes d'appareils pour aider à ouvrir des appareils à réparer, par exemple pour arriver à enlever les écrans quand l'écran est collé sur un smartphone. Je tiens à préciser que j'ai commandé et payé des kits de iFixit de manière anonyme, c'est-à-dire sans que l'équipe le sache, et je suis impressionné par la qualité des produits, leur design, ou des fois d'ailleurs avant même d'ouvrir la boîte, on est accueilli par un petit message « Repair is noble », la réparation c'est noble, le packaging et surtout le petit livret « Welcome to the Repair Revolution », cela reste d'un tarif raisonnable. Y a-t-il un parti pris sur la conception de vos produits?
Pas vraiment, après on a une équipe d'ingénieurs et une équipe design qui conçoivent les kits outils en interne. Donc c'est vraiment des conceptions en interne, on travaille dessus. Vu qu'on est dedans, on sait exactement quels embouts sont nécessaires pour quel type d'appareil. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs gammes de kits outils. et on essaie de proposer la meilleure qualité possible, parce que d'ailleurs on garantit à vie nos produits, et en vrai ça serait quand même assez hypocrite de notre part de proposer des outils jetables alors qu'on prône un mode de vie plus durable. Donc on mise vraiment sur la qualité, et c'est pour ça que les pros aussi utilisent beaucoup nos outils. Et niveau design, parce que bah voilà, on aime bien quand c'est joli, et puis quand c'est pratique, faut que ça soit pratique à transporter, à avoir sous la main. C'est aussi souvent des cadeaux. Les gens offrent des kits outils à des fans de bricolage. Voilà, ça fait partie des cadeaux. Et les livrets, bah, c'est aussi pour voilà, pour remercier les gens d'avoir acheté chez nous, et aussi pour leur montrer tout ce qui est possible de faire à travers la réparation. Et que voilà, que tout le monde peut rejoindre le mouvement du droit à la réparation, peu importe où il se trouve dans le monde. Voilà.
Alors là, on a entendu un tournevis tomber, c'est parce que je suis retombé sur le livret que j'ai trouvé vraiment fun, jusque dans les autocollants. Je tiens à préciser que j'ai acheté, pour des prix à peu près équivalents, des kits de réparation dans une chaîne de magasins d'informatique et dans un magasin de une grande surface de bricolage. On n'a vraiment pas le même ressenti. J'ai aussi été impressionné parce que du coup, j'ai pris parce que j'allais pas le faire, un kit de réparation d'écran. Et ce que j'avais bien vu sur le côté, vous pouvez y aller, votre téléphone ne va pas casser, cet outil pètera avant. Ça m'a impressionné qu'il y ait ce niveau de détail et manière de dire non, vous pouvez y aller pour la réparation avec nos outils. La réparabilité a toujours été un sujet politique. On a ainsi parlé des mises à jour logicielles des tracteurs John Deere et de la relation assez étonnante avec l'Ukraine, ou des coûts environnementaux. Est-ce que, comme le réparateur YouTuber Louis Rossman, qui n'a pu que constater l'échec de la loi réparabilité dans l'état du New York en début d'année, iFixit s'implique au niveau politique pour faire bouger les lois? Parce que c'est vrai que vous avez parlé que vous étiez impliqué dans des tables rondes, d'après ce que j'ai compris.
On soutient aucun parti politique. Pour le coup, on est d'aucun bord politique, mais on est là quand il faut parler du droit à la réparation. Donc effectivement, en Europe, on a participé aux tables rondes pour l'indice de réparabilité en France, et on a d'ailleurs une équipe dédiée à l'advocacy, comme on appelle en interne, qui est là pour aller promouvoir le droit à la réparation, pour aller soutenir des lois comme il y a eu à New York, même si bon, pour l'instant elle est ce qu'elle est. La loi californienne qui a été passée là il y a quelques jours, on est souvent sollicité pour parler des bienfaits de la réparation et de comment on peut améliorer. Par exemple, notre CEO Kyle a été présent au Congrès américain cet été pour parler justement du droit à la réparation. Donc voilà, on est souvent sollicité pour faire bouger les choses. Après, nous, on prend pas de parti politique. On reste là pour soutenir le droit à la réparation d'où que ça vienne. Mais on reste neutre au niveau politique.
Vous portez un sujet, mais donc sans prendre de bord. Que pensez-vous de la directive européenne sur la réparabilité, notamment le fait d'obliger les appareils électriques à avoir des batteries remplaçables? Est-ce que finalement, on ne risque pas de fragiliser indirectement des appareils ou les rendre plus gros, donc peut-être plus facilement cassables?
Or, fragiliser, non. Les téléphones auparavant avaient des batteries réparables, elles n'étaient pas plus fragiles, au contraire. Hein. On a le Nokia 3310 en tête. Donc, pour nous, c'est plutôt une excellente nouvelle. On espère que ça va faire bouger les choses de ce côté-là, parce que avoir un téléphone à 1000 euros et pas pouvoir changer sa batterie, c'est quand même assez problématique. Après, on reste juste sur nos gardes. Pour savoir si les fabricants vont pas essayer de trouver des moyens détournés pour contourner la restriction. Parce que, par exemple, ça peut être des motifs de sécurité ou d'étanchéité d'un appareil, en disant, bah voilà, nous, on peut pas suivre cette directive parce que notre appareil est étanche. Et donc, du coup, faut pas qu'il soit démontable, blablabla, voilà, trouver tout un tas d'excuses, alors que, on sait qu'il y a des appareils comme des brosses à dents électriques à 40 euros qui sont étanches et qui ont absolument pas de problème à ce niveau-là, donc pourquoi pas un téléphone à 1000 euros?
Il y a aussi des cas de greenwashing par certains fabricants, par exemple les fabricants d'imprimantes qui promettent de ne plus bloquer l'usage de cartouches d'encre tierce et qui en fait le font malgré tout. Est-ce que quand ça va mal, vous communiquez? Est-ce que vous êtes partisan d'un name and shame? Ou est-ce que vous dites, bon, il y en a, c'est pas bien ce qu'ils font, sans pointer du doigt et en demandant à faire attention?
Alors, on n'a pas notre langue dans la poche, donc si on n'hésite pas à dénoncer quand ça va mal, mais de l'autre côté, on n'hésite pas à dire aussi quand on trouve quelque chose de bien. Et là, ce dont vous parlez, c'est typiquement l'appareillement des pièces. C'est un verrou logiciel qui bloque certaines fonctionnalités quand une pièce tierce ou une cartouche ou une batterie ou peu importe est installée dans l'appareil. Et ça, on le dénonce.
Ou qu'on change par exemple l'écran pour.
Voilà. C'est exactement ça. Et c'est pas la compatibilité physique de la pièce, c'est un verrou logiciel donc volontaire par le fabricant. Et ça, on le dénonce complètement. D'ailleurs, c'est le cœur du sujet en ce moment parce que la réparabilité des produits s'améliore, mais l'appareillement des pièces s'empire. Donc, le démontage devient un peu plus facile, mais de l'autre côté, l'appareillement pose beaucoup de problèmes. Et par exemple, on cite souvent Apple dans ce domaine-là, parce qu'ils sont particulièrement connus et ça empire d'année en année. Et le problème, c'est que même en interchangeant des pièces d'un iPhone d'une même génération, ça ne fonctionne pas. C'est pas juste avec des pièces compatibles, c'est aussi des pièces officielles, mais juste parce que chaque pièce est associée à la carte mère de l'appareil. Donc, si on prend une pièce, un écran d'un iPhone 12 sur un autre iPhone 12, il y aura potentiellement un message d'erreur ou certaines fonctionnalités bloquées pour Face ID, par exemple. Et ça, on le dénonce complètement. Et malheureusement, c'est pas la seule marque. On pense aussi à Sony avec les PS4 et PS5, à Xbox, à Thermomix. Enfin, voilà. C'est un sujet assez problématique parce que les nouvelles lois se penchent beaucoup sur la réparabilité, sur l'accessibilité des pièces. Mais il y a un peu un vide juridique quant à l'appareillement des pièces qui pourtant empêche complètement la réparation. Donc ça, on dénonce complètement. On n'a pas peur de le dire, qu'on n'est pas d'accord. Et voilà. Et je repense par exemple à l'iPhone 14 qui est sorti il y a un an. On était très contents de constater qu'il était plus réparable. Le design interne avait été revu et on pouvait ouvrir à la fois par l'avant, par l'écran, et par la face arrière, et on s'est dit, ouais, c'est super, il y a une vraie avancée pour la réparabilité, donc on s'est dit, c'est un iPhone qui est beaucoup plus réparable, et pourtant, on constate que l'appareillement des pièces est de pire en pire, et voilà, c'est le revers de la médaille.
Il y a l'Electronic Frontier Foundation qui, sur un sujet à peu près équivalent, qui est celui des DRM, où il faut avoir tel lecteur Blu-ray pour tel écran pour pouvoir lire son Blu-ray, etc., avait créé un logo Defective by Design, défectueux de conception. Vous seriez prêt à le partager?
À partager cette idée?
Ouais, voire à réutiliser le logo puisqu'il est libre de droit, a priori.
Alors, moi, je sais pas si on serait prêt à partager faudrait que je consulte l'équipe design pour le coup, pour voir, mais après, dans l'idée, oui, c'est ça, quoi. C'est nous, on dénonce le fait d'empêcher d'installer une pièce parfaitement fonctionnelle juste parce qu'il y a un verrou logiciel qui dit, ah, non, faut passer par le réseau officiel, parce qu'il y a des moyens de contourner. Google, il y a un appareillement des pièces, mais ils mettent à disposition un outil pour que les utilisateurs puissent valider leurs pièces eux-mêmes sur la plateforme. Et voilà, la réparation peut être terminée. Donc c'est possible de le faire, mais il faut vouloir le faire.
Donc c'est vraiment de la mauvaise foi, on est bien d'accord. Dernière question, et celle-ci elle est un petit peu plus personnelle. Est-ce que vos proches sont au courant de votre travail? Et si oui, est-ce qu'à chaque repas de famille, vous avez droit à « Ah, tu tombes bien, j'ai justement un problème avec la télé ».
Mais carrément. ça arrive très souvent, peut-être pas à chaque repas de famille, mais ouais, ça arrive souvent. Après, je rappelle toujours que c'est pas parce que je travaille chez iFixit que je sais tout réparer, loin de là. Parce que je suis pas technicienne de base. Mais bon, en vrai, c'est pas récent non plus parce que comme j'ai déjà dit auparavant, j'ai toujours été un peu geek, donc on a toujours plus ou moins fait appel à moi pour tous les petits bobos électroniques. Donc, c'est pas tellement nouveau. Et d'ailleurs, le plus souvent, c'est des bugs de logiciels. Donc, c'est assez rapide à faire, mais ouais.
Et comme ça, on peut terminer le repas dominical tranquillement. Sandra Aubois, merci beaucoup. Vous êtes donc France Market Development et Social Media Manager Europe pour iFixit.com. Donc service de réparation. C'était super intéressant de parler avec vous de réparabilité, à la fois parce que vous êtes du côté du dialogue avec la communauté et en même temps parce que vous avez été participé à l'écriture de fiches ou de traduction de fiches de réparation. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.